VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour, le monde aujourd'hui, édition du lundi 19 juin 2017, en direct de Washington. Idrissa Seydouga et Jean-Roger Bion. Pour commencer, les titres.
D'autres piétons fauchés par un véhicule à Londres, un mort et 8 blessés.
Une attaque terroriste près de Bamako fait 2 morts au Mali.
En RDC, reprise hier de combats intenses entre militaires congolais et miliciens Maïmaï près de Beni.
En France, le nouveau président Emmanuel Macron dispose d'une majorité plus que confortable à l'Assemblée nationale après le second tour des législatives d'hier.
L'aviation américaine a abattu un appareil syrien après qu'il eut bombardé des forces appuyées par les États-Unis.
Et ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco pour l'instant, le journal.
Tout d'abord, Londres, un homme a été tué, 8 personnes blessées par une camionnette qui a fauché des piétons près d'une mosquée dans le nord de Londres. La police, qui a chargé son unité antiterroriste de l'enquête, a arrêté le conducteur de la camionnette. L'homme, âgé de 48 ans, avait été maîtrisé auparavant par le public sur place.
L'attaque a eu lieu à proximité de la mosquée de Finsbury Park et intervient dans un climat d'extrême fébrilité au Royaume-Uni, frappé par 3 attentats en 3 mois, dont 2 impliquant des véhicules ayant fauché des piétons. Selon plusieurs organisations musulmanes, les fidèles de la mosquée ont été visés. La première ministre Theresa May a dit que l'attaque était traitée comme potentiellement terroriste.
Au Mali, 5 assaillants neutralisés, 2 clients morts, dont une franco-gabonaise, 4 blessés, 36 évacués, dont 26 sous état de choc. Tel est le bilan provisoire d'une attaque terroriste contre le campement de Kangaba, près de Bamako. Kassim Traoré fait le point.
Un dimanche calme au campement Kangaba, situé au nord de Bamako sur la route de Ségou, a été perturbé par une attaque terroriste. D'après les témoins oculaires, ils sont arrivés sur une moto et dans un véhicule non immatriculé. Après, les djihadistes ont lancé l'attaque à partir du flanc de la colline qui surplombe le campement. Arrivés sur place, ils ont abandonné leurs engins tout en scandant Allah Akbar. C'est après qu'ils ont commencé à faire des tirs. 15 officiers français étaient dans la piscine avec leurs armes à portée de main. Un d'entre eux a réussi à abattre un terroriste, mais ils ont été obligés de décrocher car ils n'avaient que des pistolets alors que les terroristes utilisaient des kalachs. C'est ainsi que la force spéciale antiterrorisme du Mali a été dépêchée sur les lieux. Un hélicoptère de reconnaissance a survolé la zone. Général Salif Traoré, ministre de la Sécurité intérieure, dresse le bilan provisoire.
Et donc, il y avait 5 terroristes qui étaient abattus. Nous avons déploré 2 décès. Un monsieur qui, jusqu'à au contraire, nous pensons que c'est un franco-gabonais et donc qui est décédé un client. Ensuite, une dame qui a été touchée par balle.
Parmi les 36 rescapés, il y a des Français, d'autres nationalités européennes, des Maliens, des Égyptiens et des Kenyans, plus un Camerounais. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Steven Koutsis, qui doit passer 4 jours dans cette région.
En attendant ce reportage sur le Soudan et les États-Unis, signalons qu'en République démocratique du Congo, des combats intenses ont repris hier entre les militaires congolais et des miliciens Maïmaï pour le contrôle de Kabasha, localité située près de Beni, dans le nord de la province du Nord Kivu. Selon un porte-parole des forces armées congolaises cité par l'AFP, l'appartenance ethnique de ces Maïmaï n'est toujours pas connue. Les FARDC avaient annoncé samedi, en fin de journée, avoir repris le contrôle de Kabasha.
Au Bénin, le président Patrice Talon devrait reprendre ses activités aujourd'hui et présider notamment une séance du Conseil des ministres, a appris l'AFP de sources proches de la présidence. M. Talon est rentré dimanche à Cotonou après 24 jours d'absence durant lesquels il a fait un bilan de santé en France. Son absence prolongée avait suscité ces derniers jours une polémique au Bénin, obligeant le gouvernement à démentir des rumeurs sur son état de santé.
Maintenant, le Soudan, le chargé d'affaires américain au Soudan est en visite au Darfour en vue d'évaluer la situation sécuritaire sur le terrain. Les détails avec Rosine Munezero.
Steven Koutsis, qui doit passer 4 jours dans cette région troublée de l'Ouest soudanais, a rencontré hier les représentants de divers secteurs, les Nations Unies, la société civile et les chefs tribaux notamment. Les Nations Unies et l'Union africaine ont préconisé dans un récent rapport la réduction des effectifs de la MINUAD, la force internationale de 17 000 membres déployée depuis 10 ans au Darfour. Cette force coûte $1 milliard par an. L'AFP souligne aussi que cette visite au Darfour intervient à quelques semaines de la décision du président Donald Trump de lever ou non définitivement un embargo commercial américain en place depuis 2 décennies au Soudan. Le conflit au Darfour a fait quelques 300 000 morts et a entraîné le déplacement de 2,5 millions de personnes.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Les Français étaient de nouveau appelés aux urnes ce dimanche. C'était le second tour des élections législatives. La réponse a été très faible et les résultats n'ont pas surpris. Selon les instituts de sondage, le taux de participation hier dimanche serait même inférieur à celui du premier tour. Le parti du président Emmanuel Macron, La République en marche, a raflé la part du lion et une majorité absolue à l'Assemblée. Les précisions de Chérubin Dorsil.
C'est une victoire sans appel pour le camp Macron. La République en marche et son allié du Modem auront remporté entre 355 et 403 députés sur 577, donc bien plus que les 289 sièges requis pour avoir la majorité absolue. Le nouveau chef de l'État français, ancien ministre de l'économie de François Hollande, qui a bénéficié de l'effondrement de la gauche traditionnelle et des fissures de la droite, avec l'affaire Fillon notamment, aura les coudes franches pour mettre en œuvre un ambitieux programme de réforme et renforcer sa position au niveau européen. Point sombre au tableau, le taux très élevé d'abstention. On parle de plus de 56% d'électeurs qui ont boudé ce scrutin, ce que le chef de file de la gauche radicale, Jean-Luc Mélenchon, qualifie de grève générale civique. Par ces élections, le peuple français, en tout cas la minorité qui est allée voter, a dit non au parti traditionnel et misé sur le changement prôné par le jeune président de 39 ans. La droite républicaine et le centre ont eu au moins 128 sièges. Grande déception pour les socialistes, pas plus de 50 députés. Mauvais résultat également pour le Front national, dont la présidente Marine Le Pen entre cependant pour la première fois à l'Assemblée. Le parti aura vraisemblablement moins de 10 députés. En résumé, la nouvelle donne en France ce lundi, c'est l'entrée en scène de beaucoup d'élus dépourvus d'expérience dans la chose publique et la mise au rancard de politiciens de carrière emportés par l'avalanche de La République en marche.
En Syrie, l'aviation américaine a abattu un chasseur gouvernemental près de Tabqa après que cet appareil eut bombardé des éléments des forces démocratiques syriennes combattant le groupe État islamique et appuyé par les États-Unis. Auparavant, les forces syriennes avaient attaqué des combattants de la coalition près de Jadin, blessant un certain nombre d'entre eux et chassant leurs forces de la localité. L'aviation de la coalition était intervenue pour stopper la progression des forces pro-régime et avait contacté les combattants russes pour éviter une aggravation de la situation. Le Pentagone a qualifié cette intervention de la coalition de légitime défense.
Les négociations du Brexit démarrent officiellement ce lundi à Bruxelles, où les Européens craignent que la fragilité du gouvernement de Theresa May ne complique cette tractation historique. La réunion sera d'abord consacrée à l'organisation pratique des négociations complexes d'un retrait en bon ordre du Royaume-Uni, prévu fin mars 2019, après plus de 40 ans d'une adhésion tumultueuse à l'Union européenne. Également au menu, les 3 dossiers que les 27 pays restants dans l'Union européenne ont définis comme prioritaires, le sort des expatriés européens au Royaume-Uni et des Britanniques dans l'Union européenne, l'avenir de la frontière irlandaise et le règlement financier des engagements de Londres envers l'Union évalués jusqu'à 100 milliards d'euros.
Des familles piégées par les flammes dans leur voiture, au moins 61 morts et 62 blessés, routes coupées, villages évacués, arbres calcinés. Le Portugal était sous le choc dimanche après l'immense incendie de forêt qui a fait rage depuis la veille dans le centre du pays. Selon les autorités, plus de 800 pompiers et 260 véhicules étaient toujours à pied d'œuvre pour combattre le sinistre le plus meurtrier de l'histoire récente du Portugal. Le gouvernement a décrété 3 jours de deuil national.
Ici, aux États-Unis, l'avocat du président Donald Trump a précisé qu'il n'est pas une cible de l'enquête menée par le procureur spécial Robert Mueller pour une éventuelle entrave à la justice. Pourtant, dans un précédent tweet, M. Trump avait lui-même dit être maintenant visé par M. Mueller, mais l'avocat a su que Donald Trump se fondait seulement sur un article du Washington Post.
Voilà pour ce journal.
Claire Morin-Gibourg pour la Minute Éco sur VOA Afrique. Le FMI reste optimiste pour l'économie du Bénin. Ses perspectives sont favorables, même si elles sont largement tributaires du redressement de l'économie du Nigeria. Dans un communiqué, le FMI s'est félicité de l'ensemble des mesures prises par les autorités pour préserver la stabilité macroéconomique et améliorer le niveau de vie des Béninois. La récolte nationale de bananes du premier producteur africain, la Côte d'Ivoire, a atteint en 2016 près de 350 000 tonnes, s'est réjoui le ministre ivoirien de l'Agriculture, qui a toutefois exhorté à développer les marchés locaux face à la concurrence des pays d'Amérique centrale et latine sur le marché européen. La Côte d'Ivoire a amorcé un plan de relance en vue de doubler sa production d'ici 2020. Les actifs des investisseurs publics africains ont diminué de 10,8% pour s'établir à 700 milliards de dollars à la fin de 2016, contre 785 milliards de dollars en 2015. Ces conclusions sont celles d'un nouveau rapport publié par le Forum officiel des institutions monétaires et financières basé à Londres. Selon ce rapport, l'Afrique est la seule région à enregistrer une baisse des actifs des investisseurs publics à travers le monde.
À présent, les sports avec Élisée Ongpatine. Bonjour.
Bonjour Idrissa et bonjour à tous.
Football avec la Coupe de la Confédération, le Cameroun battu d'entrée.
Oui, les champions d'Afrique sont passés à côté de leur premier match puisque battu 2-0 par le Chili. Toujours dans ce groupe aujourd'hui, l'Australie joue l'Allemagne.
Dans le groupe B, le champion d'Europe cale lors de sa première sortie.
Le Portugal a été accroché d'entrée par le Chili, 2-0. Le pays hôte, la Russie, s'empare de la première place suite à sa victoire 2-0 devant la Nouvelle-Zélande.
Football toujours, la SEC Mimosa, champion de Côte d'Ivoire.
Exactement, un titre acquis après son succès 1-0 sur son dauphin, le WAC, Williamsville Athletic Club d'Adjamé, lors de la 25e et avant-dernière journée du championnat MTN League 1 de la Côte d'Ivoire. L'unique but de la rencontre est l'œuvre de l'international burkinabé Aristide Mansé. Les Mimos sont donc sacrés 7 ans après leur dernier titre, un 25e titre de champion pour les jaunes et noirs.
Au Nigeria, il faut attendre la dernière journée pour connaître le champion.
Le leader Plateau United s'est incliné lors de la 25e journée face à Abia Warriors 2-1. Son dauphin Al-Kanemi a battu Romo Sport 2-0 pour réduire l'écart à 5 points. Au Mali, c'est le classique de la capitale entre le Stade malien et la Cédio Liba qui a marqué la 13e journée du championnat. Et déjà leader avant le coup d'envoi, les Blancs de Bamako ont davantage creusé l'écart en l'emportant 1-0. Une réalisation d'Amadou Samake avec désormais 35 points. Le Stade malien domine la tête du classement avec 9 points d'avance sur son dauphin et victime du jour, Choliba AC. Au Cameroun, le leader Eding a été accroché par le Racing de Basse-Foussam 0-0. Le club de Douala totalise 34 points à 6 longueurs de son dauphin, l'USM de Loum, battu par APGS 1-0.
Cyclisme avec le Tour du Congo et Abdulaziz Nikiyama remporte la 4e étape.
Le Burkinabé s'impose en 3h56, une 4e étape longue de 180 km, ralliant Likasi à Kolwezi. On l'écoute au micro de Thierry Kamoudi de Top Congo FM, notre radio partenaire. À l'issue de cette étape, c'est le Belge Bredan James qui conserve le maillot jaune de la compétition.
Bon, vous voyez que depuis les 3 étapes, on n'a rien gagné. Donc l'objectif aujourd'hui, c'était de gagner l'étape. Donc au classement général, on ne sait pas comment ça se fait. Donc notre objectif, c'était de gagner les étapes maintenant, puisque le maillot jaune, je pense que ce n'est plus possible. Parce que avec le temps que le maillot jaune en est, je ne pense pas qu'on pourra gagner le maillot jaune. Donc l'objectif, c'est de gagner les étapes. Hier, on a fait 2e. Donc aujourd'hui, le matin, le briefing, c'était de gagner l'étape. Donc toute l'équipe a fait un travail formidable le matin. À la dernière minute, j'avais un problème. J'avais un problème de dérailleur. Ça ne descendait pas bien, donc si je venais en sprint, je n'en ai pas gagné, donc j'ai essayé d'attaquer.
J'ai attaqué sur le marché, donc voilà, c'est un travail d'équipe.
Et à quel moment vous décidez?
Dans les derniers 12 km que j'ai essayé d'attaquer parce que je voyais que les gens ils avaient des difficultés. Donc j'ai tenté ma chance, j'ai amassé, donc j'ai roulé à fond, j'ai donné le maximum de moi-même, donc je pense que ça a donné des bons fruits, donc je pense que c'est un travail d'équipe qui m'a fait gagner. Bien sûr, vous voyez que depuis le matin, dans les derniers 30 km, j'ai dit à mes équipiers de ne pas laisser quelqu'un partir parce que si on laissait quelqu'un partir, on ne pouvait pas les rattraper. Donc, ils ont fait.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Sidoulia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au Mali, des organisations de la société civile, des partis de l'opposition réunis au sein de la plateforme Anté-Abana, ou Touche pas à ma constitution, ont organisé une grande marche pacifique et citoyenne. Ils demandent le retrait du projet de constitution. Nous retrouvons Kassim Traoré.
Ils étaient des militants des associations, des syndicats, ONG, des artistes et des leaders d'opinion, ainsi que des militants et militantes des partis politiques de l'opposition, à prendre part à cette marche pacifique et citoyenne.
Non, cette marche, en réalité, c'est pour ramener le gouvernement à la raison, pour qu'il comprenne que le pays n'est pas favorable à cette révision et qu'il revienne en arrière dans l'intérêt général.
La dictature, en bas,
en bas.
La monarchie en bas, la monarchie de droit héréditaire en bas, la monarchie supraconstitutionnelle en bas, Mandavoli, Antin, Abara.
Aujourd'hui, on veut réviser cette constitution, et non pour l'améliorer, mais pour la faire reculer. On est venu pour dire, Ibeka, non, ne touche pas à notre constitution, trop c'est trop.
Dans la substance, c'est une marche contre le pouvoir, parce que c'est une initiative du pouvoir. Ouais. Donc c'est forcément une marche contre le pouvoir qui n'a pas le sens de prendre le pouls du peuple. Et le peuple est contre cette constitution.
Ces marcheurs sont rassemblés pour le Mali, un Mali millénaire, un Mali de la résilience et de la résistance à l'autocratie. Le Mali qui dit non quand il n'est pas d'accord. Et le rassemblement du jour, c'était pour dire « Anté Abana, touche pas à ma constitution ».
Nous disons non au référendum parce que ce n'est pas le moment opportun. Non seulement les régions sont prises par des inconnus, mais au sud ici, ça ne va pas. La vie est chère, les gens sont angoissés, on a faim, on a soif. Et s'ils se permettent d'injecter nos sous pour le référendum, nous lui disons non, non. Et nous avons amené cette démocratie-là en 91, d'où il ne faisait pas partie des acteurs. Donc aujourd'hui, il ne peut pas venir mettre cette population en demeure de organiser une...
Les marcheurs dénoncent certains articles du projet de constitution qui peuvent permettre l'avènement d'un président inamovible qui restera président à vie tant que les conditions ne sont pas réunies pour tenir des élections, comme le stipule l'article 36 du projet de constitution.
Je suis indigné et révolté. Mon pays est agressé et occupé dans ses deux tiers par des bandits armés, des barbares apatrides et autres mécréants qui, au nom de l'islam mal assimilé, sèment la terreur dans les septentrions du Mali. Le nord de mon pays est devenu aujourd'hui une richesse sur laquelle se rient des abeilles assoiffées. Le nord de mon pays est aujourd'hui une zone de non-droit où des exactions les plus inhumaines sont le lot quotidien des populations abandonnées, livrées à elles-mêmes.
La plateforme dit non à la révision constitutionnelle parce que pour elle, elle viole aussi l'article 118 alinéa 3 qui stipule qu'aucune révision de la constitution ne peut être engagée s'il est porté atteinte à l'intégrité du territoire, alors qu'il y a des attaques au Mali et même dans les environs de la capitale malienne. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Restez avec nous à Bamako, au Mali, sur le 102 FM, c'est VOA Afrique, 24h sur 24.
Au Burkina Faso, Nestorine Sangaré, l'ancienne ministre de la promotion de la femme sous Blaise Compaoré, vient de créer la surprise en décidant d'être artiste-chanteuse. Au demeurant, elle vient de sortir un album de 10 titres intitulé « Un père fidèle ». Notre correspondant Zoumana Wonogo est allé à la rencontre de Nestorine Sangaré.
De ministre à artiste musicien, faut avouer que ce n'est pas courant au Faso. Qu'en dit Nestorine Sangaré, madame la ministre, devenue artiste chanteuse?
J'ai commencé l'album en 2011, janvier 2011. La nomination a eu lieu en avril et donc j'ai suspendu le processus parce que au niveau du gouvernement, on m'a dit qu'on ne pouvait pas continuer l'enregistrement. C'est l'histoire d'une passion. En Haïti, il y a même eu un président chanteur. N'oubliez pas que le président Sankara chantait, il jouait la guitare. Donc c'est pas, il n'y a pas une antinomie entre être ministre et chanter.
L'envie nous a démangé de découvrir tout de suite les talents artistiques de madame la ministre chanteuse. Écoutons cet a cappella.
C'est une chanson, un appel à la réconciliation. Ça me tient vraiment à cœur. Quand viendront les mauvais jours de preuve, quand soufflera le vent de la haine, que feras-tu, mon ami? Quand nous vivrons sous la loi de la jungle, que la terreur deviendra aveugle, que feras-tu, oh mon frère?
Que trouve-t-on dans cet album? Nestorine Sangaré donne les détails.
C'est vraiment un album, je dirais, intimiste. Un père fidèle, Manu Sougri, Mamka Zemsié, Je ne suis pas tout seul, Assurance tout risque, Hymne de la réconciliation. Ça parle indirectement de ce que j'ai vécu, mais ça parle en même temps indirectement de ce que d'autres personnes peuvent être en train de vivre actuellement. Et cet album-là peut donc, sur ce plan, leur être utile.
Quand l'enfant apparaît, le cercle de la famille applaudit à grands cris de joie, a dit le poète. Alors, quel accueil sera réservé à la ministre artiste? Inoussa Samandoulougou dit Fat Lion, secrétaire général du syndicat des artistes musiciens du Faso, répond.
Nestorine Sangaré est la bienvenue dans le milieu des artistes, dans le cercle des artistes musiciens. Et je pense qu'ici, nous allons l'apprécier par sa qualité vocale, sa qualité artistique et sa qualité de faire passer son message à travers les mélodies comme nous savons le faire. Et le côté ministre, je pense que ça, c'est des aspects que nous ne connaissons pas dans notre milieu.
La ministre chanteuse nous a confié qu'elle entend mettre l'argent obtenu par la vente de son album au service de la lutte contre les grossesses non désirées. Zoumana Ounougou, Ouagadougou, VOA Afrique.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 au Burkina Faso, à Ouagadougou sur le 102.4 FM.
Chaque année, des dizaines de milliers de tonnes de vêtements d'occasion sont acheminées de l'Europe vers le Sénégal. La majorité de ces colis atterrissent à Colobane, un quartier populaire de Dakar, qui accueille le plus grand marché de fripe du pays. Il y a un véritable business autour de ces habits qui font le bonheur de la population à faible revenu, nous dit de la capitale sénégalaise, Seydina Abagay.
Communément appelés fripes, ces vêtements d'occasion sont pourtant acquis à prix d'or par les importateurs sénégalais. Ibrolo, ancien immigré en Italie, explique leur cheminement et les péripéties qui l'entourent.
Si vous devez boire 40 pieds, il faut que j'aille.
Pour un conteneur de 40 pieds, nous payons 4 700 000 francs ou 5 millions pour les frais de douane, ce qui est extrêmement difficile pour nous. Nous achetons les conteneurs de vêtements à 27 500 ou 30 000 euros, ce qui fait environ 19 millions de nos francs si on y rajoute les 5 millions de taxes. La facture globale grimpe à presque 25 millions. C'est très compliqué, d'autant qu'on livre la marchandise à crédit en attendant les remboursements des marchands au détail.
Fallou Sek, vendeur au détail, estime que le business de la fripe arrange toutes les parties prenantes car chacun y trouve son compte.
Les prix varient entre 25 000 et 85 000 francs CFA. Plus c'est cher, plus il y a des vêtements de qualité. Ainsi, chacun achète selon ses moyens pour ensuite revendre au détail. Les clients viennent acheter ici car c'est plus facile et plus accessible. Avec 1500, un père de famille peut acheter des habits pour ses 5 gosses. Alors que si c'était des vêtements neufs, il n'aurait même pas pu en habiller un. Certes, l'idéal serait d'avoir des vêtements neufs, mais tout le monde ne peut pas se payer ce luxe.
Des vêtements neufs, Aïssa Touba aurait aimé en avoir, mais avec son faible pouvoir d'achat, elle préfère se rabattre sur les vêtements d'occasion.
Ça fait plusieurs années que je viens à Colobane pour acheter des vêtements, car pour moi, c'est la même chose que les boutiques de prêt-à-porter. Les vêtements d'occasion sont une aubaine pour nous, car c'est très abordable. Après les avoir achetés, on désinfecte les vêtements, puis on amène ça au lavage avant de les porter. On prend ces précautions pour éviter les maladies dermatologiques. Sinon, c'est moins cher et ça nous permet de nous habiller convenablement.
À Dakar, le nom de Colobane est systématiquement lié à la vente de fripes. Au fil des années, ce quartier populaire de la capitale sénégalaise est devenu la plaque tournante de la vente de vêtements d'occasion au grand bonheur d'une population qui n'a pas toujours les moyens de s'acheter du neuf. À Dakar, Seydina Aba Gueye pour VOA Afrique.
Au Burundi, à l'initiative d'un hôtel de classe de Bujumbura, des conducteurs de taxi-vélo, des mécaniciens, des élèves de retour de l'école et d'autres citoyens ordinaires peuvent se rafraîchir gratuitement et ce, dans un pays qui a de nombreux cours d'eau mais manque cruellement d'eau potable. Cette initiative privée est qualifiée de louable par beaucoup de gens à Bujumbura. Les gobelets sont lavés avant et après utilisation, mais personne n'a le droit de s'approvisionner, l'eau étant à boire sur place. Notre correspondant à Bujumbura, Christophe Kurunziza, s'est rendu sur les lieux.
Sur l'avenue de l'université, du côté du quartier cosmopolite de Buiza, au centre-ville de Bujumbura, une machine offre avec un robinet de l'eau fraîche aux passants pendant les heures de service. Et gratuitement, tout passant qui a soif peut venir se désaltérer. Ce monsieur, la cinquantaine, est le témoin quotidien des personnes jeunes et âgées qui jouissent du bienfait de la machine à eau. Il parle d'un acte purement humanitaire pour la personne qui a eu cette idée dans un pays où l'eau est devenue une denrée rare ces derniers temps.
Vraiment, c'est quelque chose extraordinaire. N'importe qui, les pauvres, ils passent là-bas, ils se lavent les mains, ils boivent de l'eau avec des gobelets bien propres. Donc c'est un bienfaiteur pratique. Il met sa bienfaisance en pratique. Il y a aussi des charges de téléphone gratuits là-bas. C'est vraiment quelqu'un d'extraordinaire.
Ce jeune homme, élève d'une école secondaire du quartier mitoyen de Rehiro en face de Buiza, vient souvent boire de l'eau chez Gilbert Ngrunziza, le patron de l'hôtel qui a eu cette initiative bienheureuse. En plus de l'eau, cet élève charge normalement son téléphone et utilise le Wi-Fi mis à la disposition de la population gratuitement.
Moi d'abord, je remercie ceux qui ont pensé d'amener ce robinet gratuit. Il nous donne de l'eau potable alors qu'au Burundi, le problème de l'eau est très difficile et l'eau est rare. Je remercie ce monsieur et il nous donne de l'énergie pour charger nos téléphones gratuitement. Il y a du Wi-Fi là-bas, c'est une bonne idée.
Cet autre élève rencontré sur place remercie le bienfaiteur qui a posé ce geste.
Je veux dire qu'il a bien fait. Toutes les personnes n'ont pas les mêmes moyens. On ne te demande pas de l'argent. C'est une bonne chose. Que Dieu le bénisse.
Une autre personne parle d'un geste de bon samaritain.
Aider les gens, aider la population, c'est une bonne chose. Il y a aussi un endroit pour charger des téléphones. C'est une bonne action. Ouais, ouais. C'est un samaritain. Ouais, ouais. Il y a beaucoup de patrons ici au Burundi. Qu'il peut faire ses bonnes actions. Il y a le problème de l'eau ici. Voir quelqu'un qui fait cette action, boire de l'eau gratuitement, c'est vraiment impeccable.
Quand le propriétaire de l'hôtel m'a donné rendez-vous pour une interview, Gilbert Ngrunziza m'a demandé de ne pas faire l'interview car il ne veut pas se faire voir. Mais il m'a fait savoir que donner de l'eau fraîche pour des gens qui sont souvent fatigués comme les taxis-vélos est un acte simple qui ne mérite pas d'être porté à la connaissance du public. Christophe Ngrunziza, Bujumbura, VOA Afrique.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Salut les amis, ici Roger Moutou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h, temps universel. Au menu, le Top 10 American Music, les nouveautés de la musique américaine. Vos commentaires sur notre page Facebook, Roger Moutou, la voix de l'Amérique. Et vos SMS au 225-58-92-40. Je répète, 225-58-92-40. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
Le monde aujourd'hui. aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. Merci à Jean-Roger Bion pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Sims à la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Sedoudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.